Vous écoutez, on lit pour vous.
Pour un comportement éco-responsable, partir ou rester au moment des congés. Un texte d'Augustin de Boudinière, paru le 3 août 2025 dans Le Devoir. Qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs qu'on pourrait trouver ici? Demande le sociologue français Rodolphe Christin en entrevue avec Le Devoir à partir de l'Hexagone. Pourquoi? En effet, ne pas reconnecter nos villes aux vivants et à la nature pour pouvoir profiter de nos vacances chez nous, plutôt que d'empirer nos bilans carbone en prenant l'avion pour aller à l'autre bout du monde faire du tourisme pendant une ou deux semaines. Si ce luxe a été auparavant réservé aux aristocrates, puis à la bourgeoisie à partir de la révolution industrielle, une portion de plus en plus large de la classe moyenne poussée à la consommation, éprouve désormais de la difficulté à s'imaginer rester chez elle pendant ses congés. Il y a un effet de mimétisme des classes supérieures par les classes inférieures, croit Rodolphe Christin. L'auteur de « Peut-on voyager encore ?» explique que le voyage à l'étranger est un outil de distinction sociale qui, pourtant, incite les vacanciers à se concentrer dans des lieux organisés pour eux, au parcours très balisé, et donc à faire des activités assez communes et standardisées. L'avènement des réseaux sociaux y est pour beaucoup, selon M. Christin. Ils ont démultiplié un phénomène d'imitation, notamment de manière très, très massive, avec des images de lieux qui deviennent, de fait, assez emblématiques. Ces lieux deviennent iconiques et les gens ont envie d'aller s'y faire photographier. Une industrie polluante. Ces voyages exercent une influence néfaste sur le climat, notamment en matière de transport. L'aviation commerciale, par exemple, représentait il y a 7 ans 2,5% des émissions de gaz à effet de serre mondial, mais était responsable de 5% du réchauffement climatique entre 2000 et 2018. Et pourtant, plus des 3/4 de la population n'ont jamais pris l'avion. Pour accueillir les visiteurs, les destinations touristiques doivent en plus construire de nouvelles installations qui stimulent l'artificialisation de lieux et la transformation de cultures. À terme, ces changements peuvent également nuire au logement de la population locale à cause de l'augmentation des loyers ou du manque d'habitation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le consensus autour du fait que le tourisme s'est bien largement répandu, déplore Rodolphe Christin, qui rappelle cependant que dans certains pays, comme en France, le pays le plus visité du monde, des habitants commencent à remettre en question la création d'infrastructures touristiques sur leur territoire. De la même façon, quelques voix s'élèvent pour réclamer une taxation du kérosène sur les liaisons aériennes internationales, exemptées depuis la signature de la Convention de Chicago en 1944. Oui, il y a une prise de conscience écologique qui, dans les discours, est apparue. Oui, critiquer le tourisme est beaucoup plus audible aujourd'hui. Par contre, il y a une tendance massive qui s'est accentuée qui fait que les gens sont de plus en plus nombreux à partir, explique M. Christin. Pour continuer de séduire les personnes qui s'inquiètent pour le climat, mais qui veulent encore voyager loin, des systèmes de compensation carbone sont désormais suggérés. Des compagnies aériennes et des acteurs de l'industrie touristique proposent en effet à ses clients de contribuer à la plantation d'arbres pour absorber le dioxyde de carbone. Une fausse solution, selon Rodolphe Christin, qui voit ses offres surtout comme un argument pour continuer à vendre des voyages et des billets d'avion. L'avènement de l'écotourisme, plus tourné vers la découverte du vivant et de l'environnement, ne convient pas non plus aux sociologues. L'écotourisme ne remplace pas les autres formes de tourisme. Et puis, je peux aller en faire au Costa Rica et y aller en avion. Donc, les pratiques écotouristiques, elles peuvent aussi, à l'échelle d'une trajectoire individuelle, se cumuler avec une ou deux journées passées à faire du jet-ski, illustre M. Christin. Sensibiliser ou interdire? Pour limiter la pollution liée au tourisme, Rodolphe Christin ne recommande cependant pas son interdiction ni même la restriction de sites touristiques. L'essayiste préconise plutôt de remettre collectivement nos pratiques en question et d'améliorer nos conditions de vie à domicile afin de ne pas rendre le départ en vacances indispensable. On pourrait très bien imaginer des campagnes de sensibilisation. Et si cet été, vous restiez chez vous, avec tout un travail d'information du public sur les effets du tourisme? L'instabilité géopolitique et l'augmentation des prix du pétrole pourraient de toute façon venir brider nos envies de voyage et nous pousser à revoir nos manières de profiter de notre temps libre et à nous reposer sans forcément partir, comme le montre la tendance actuelle qui motive les Canadiens à moins se rendre aux États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Il y a déjà eu des phénomènes comme ça, de destinations qui se sont fermées. Je pense au tourisme saharien qui était très pratiqué dans le secteur du tourisme dit d'aventure et qui, avec la poussée de l'islamisme, s'est complètement arrêté. Donc ça pourrait arriver. Le tourisme a besoin de sécurité, estime le sociologue. Margate Martin Parr. Martin Parr, né en 1952 à Epsom dans le Surrey, au sud de Londres, développe dès son adolescence une passion pour la photographie. Il s'est fait connaître notamment par sa représentation du mode de vie britannique, mettant en lumière le déclin social et les difficultés de la classe ouvrière sous l'ère Thatcher, notamment avec sa série « The Last Resort ». Photographs of New Brighton, publié en 1986. En plus de son travail de photographe, Martin Parr est conservateur de musées et éditeur. Membre de l'agence Magnum depuis 1994, il en a assuré la présidence entre 2013 et 2017. En 2013, il a été nommé professeur invité de photographie à l'Université d'Ulster, en Irlande du Nord. Ses œuvres sont présentes dans de prestigieuses collections muséales telles que celle de la Tate au Royaume-Uni, du Centre Pompidou à Paris ou encore du Museum of Modern Art à New York. C'était pour un comportement éco-responsable, partir ou rester au moment des congés. Un texte d'Augustin de Baudinière paru le 3 août 2025 dans Le Devoir.
Faire revivre la tradition du tatouage. Un texte de Gwendoline Lebeaumain paru le 3 juillet 2025 dans l'Aurore boréale. Du 9 au 11 mai dernier, le Traditional Tattoo Gathering, rassemblement de tatouages traditionnels, s'est déroulé pour la première fois au centre culturel Kuan Lin Dun. L'événement a permis à plusieurs personnes autochtones de se faire tatouer et de reconnecter avec leurs traditions. L'événement a mis en avant 6 tatoueurs et tatoueuses autochtones venus de différentes provinces canadiennes, informe Hannah Turcotte, directrice culturelle du Centre culturel Kuan Lin Dun. Une journée d'éducation publique a eu lieu le 9 mai et un débat a été organisé avec les artistes autour de leurs pratiques, de la signification culturelle des tatouages et de l'histoire de ces traditions. L'objectif était de sensibiliser la communauté à la pratique du tatouage traditionnel, qui a été largement éradiqué par la colonisation, et de promouvoir sa revitalisation par ses artistes, dit-elle. Anne Spice, tatoueuse Tlingit, membre de la Première Nation des Kuan Lin Dun et professeure adjointe en anthropologie à l'Université de Toronto, abonde dans le même sens. L'événement était une occasion pour nous, artistes autochtones, de partager une pratique culturelle qui a des racines très profondes dans le territoire, et aussi d'aider à revitaliser une pratique qui a failli être perdue à cause de la colonisation et de partager cela avec la communauté. C'était l'occasion aussi d'éduquer la communauté sur cette pratique du tatouage traditionnel et sur la façon dont elle est ravivée aujourd'hui. Reconquérir les traditions perdues. Il fut un temps où les peuples autochtones avaient peut-être honte de leur identité, explique Hannah Turcotte. Ils ne voulaient pas que les gens sachent qu'ils étaient autochtones. Et le fait d'avoir ces marques traditionnelles est une façon tellement visible d'affirmer au monde que c'est ce que je suis et d'où je viens, et que ce sont les marques de mes ancêtres. Il s'agit de ramener cette fierté et de reconquérir les traditions perdues. Pour elle, il est certain que les pensionnats ont eu un impact sur sa pratique, mais aussi au Canada, avec l'interdiction du potlatch, cérémonie couramment organisée à l'occasion d'événements sociaux importants comme les mariages, les naissances et les funérailles. Lorsque le potlatch a été interdit à la fin des années 1800, ces pratiques sont devenues clandestines. À cause de cela, à cause d'autres pressions de la colonisation, de l'Église et d'autres facteurs culturels, le tatouage a été considéré comme quelque chose d'arriéré et de sauvage. Le tatouage n'est donc plus pratiqué depuis longtemps à l'intérieur du pays, mais il a été maintenu en vie le long de la côte et dans le nord. Ce que nous faisons aujourd'hui fait partie d'un renouveau qui vise à ramener ces pratiques après une période d'hibernation. Elles ont été en quelque sorte clandestines pendant un certain temps, explique Anne Spice. Le tatouage comme guérison. Je pense que, pour beaucoup de gens, les motifs des tatouages auront différentes significations pour différentes personnes. Pour certaines, leurs tatouages peuvent raconter une histoire, des choses qu'ils ont surmontées dans leur vie ou juste la guérison des effets de la colonisation qui ont pu nous apporter la honte à un moment. Il s'agit maintenant de retrouver la fierté de nos identités, affirme Hannah Turcotte. Je travaille en partie avec le centre de santé de Whitehorse et j'intègre les tatouages dans son programme de guérison, explique Anne Spice. Je pense que pour les personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes ou qui ont été séparées de leur culture ou de leur famille, le tatouage peut être un moyen de marquer une période de transition et de transformation et de s'engager dans un processus de guérison. Le tatouage est donc bien plus qu'une simple marque sur la peau. Je pense que les gens l'ont également intégré dans leur propre parcours de guérison, conclut-elle. L'organisatrice envisage la réalisation d'un mini-documentaire sur le rassemblement. Shauna Wilson a donc pris des photos et des vidéos pour nous lors du rassemblement. C'est un cinéaste autochtone et il a travaillé avec nous pour créer des mini-documentaires sur diverses pratiques culturelles. Avec un peu de chance, l'année prochaine, nous allons organiser une exposition sur les tatouages traditionnels. Nous pourrons donc montrer certaines des images de ce rassemblement dans notre exposition, informe Hannah Turcotte. Cette dernière espère que l'événement deviendra une activité annuelle. C'était « Faire revivre la tradition du tatouage », un texte de Gwendoline Lebeaumain paru le 3 juillet 2025 dans l'Aurore boréale.
Une petite mine d'or dans votre entrée de garage, un texte d'Alain McKenna, paru le 30 juin 2025 dans la presse. Si j'avais un char, ça changerait ma vie, et celle de mon portefeuille chanterait peut-être Stephen Faulkner en 2025. S'il y a une conséquence imprévue de tout ce qui se passe ces jours-ci dans le monde, c'est la hausse hors norme, mais probablement temporaire, de la valeur des véhicules d'occasion. Les commerçants et les constructeurs s'attendaient à voir le prix des véhicules grimper en raison des droits de douane aux États-Unis, explique le directeur principal de l'analyse de l'industrie automobile pour le Canadian Black Book, Daniel Ross. Ça fait monter les prix de façon exorbitante ces trois derniers mois. C'est un bon moment pour les propriétaires d'un véhicule en fin de bail, mais si vous essayez d'en acheter un, c'est l'inverse. le prix moyen d'un véhicule usagé a bondi de 12 % au Canada en 2025, entre le début mars et la mi-juin. En dollars, il est passé de 34 000 à 38 300 $. C'est une hausse assez exceptionnelle, indique le porte-parole de la publication canadienne spécialisée dans ce genre d'informations. C'est fort probablement temporaire. C'est un rythme hors norme qui ne peut pas être soutenu. Ça ne va pas durer, ajoute-t-il. Pour les gens qui ont l'habitude de louer leur véhicule et dont l'entente arrive à terme, ça risque d'être une bonne nouvelle. La valeur marchande de leur véhicule est probablement bien supérieure à la valeur résiduelle inscrite au contrat. Les consommateurs qui le désireront pourraient être tentés de racheter à bas prix leur véhicule et de le revendre pour empocher le gain de valeur marchande. D'autres se verront offrir une somme d'argent non négligeable par leur vendeur pour les inciter à échanger leur véhicule pour un nouveau modèle de la même marque. Les clients qui voudront aller magasiner chez un concurrent n'auront pas droit au même traitement. L'occasion canadienne. On ne savait pas trop au début de 2025 comment la guerre commerciale tous azimuts lancée par le président américain Donald Trump allait affecter le marché automobile canadien. On craignait une hausse des prix. Finalement, elle a été moins sévère que prévu. Au Canada, le prix moyen pour un véhicule neuf a même reculé d'environ 5 % entre le début de 2024 et le début de 2025, selon Auto Trader. Pendant ce temps aux États-Unis, le prix moyen des véhicules neufs a augmenté de 2,5 %. Le site de vente automobile en ligne constate que les consommateurs canadiens sont plus enclins que jamais à magasiner et à comparer des véhicules neufs et d'occasion d'une marque ou d'une autre. Dans le cadre d'un sondage mené à l'hiver 2024, Auto Trader indique que plus du tiers, 36 % des acheteurs qui préfèrent acheter un véhicule neuf songeaient à aller du côté des véhicules d'occasion en 2025. Cette proportion est en hausse, et elle avantage évidemment les vendeurs de véhicules d'occasion. Cela explique en partie une demande estivale qui pourrait demeurer relativement forte pour ces véhicules qui en ont vu d'autres et la hausse de leur valeur de revente. Renverser l'endettement. Cette tendance, aussi temporaire soit-elle, est peut-être l'occasion pour certains de s'offrir un peu de répit. C'est un renversement de la tendance dans le marché automobile national. Bien des acheteurs ou locataires se sont endettés durant la pandémie en payant plus cher pour un nouveau véhicule. Dans certains cas, un solde dû sur un véhicule qui excède la valeur qu'il aurait sur le marché au moment où on s'en départit peut finir par être acquitté par le consommateur. Ce montant sert parfois de levier de négociation pour un commerçant qui espère louer un nouveau véhicule à ses clients. Ces dernières années, bien des gens ont retourné leur véhicule et en ont loué un nouveau et ont vu ce montant être intégré à leur nouveau contrat. C'est un exemple d'un endettement croissant causé par l'acquisition d'un véhicule neuf et qui suscite l'inquiétude. Ça peut provoquer un choc pour des gens qui espèrent recevoir un chèque à la fin de leur location et qui devront plutôt en signer un eux-mêmes, a dit à la fin d'avril le directeur général du site de revente automobile Clutch.ca, Dan Park. Selon le commerçant établi à Toronto, le nombre de Canadiens aux prises avec une balloune dans leur location automobile a triplé au premier trimestre 2025. le rebond printanier du marché des véhicules d'occasion sera une bonne nouvelle pour eux, conclut Daniel Ross. À condition de ne pas se faire prendre à payer plus cher encore pour un nouveau véhicule, ajoute-t-il. C'est le bon moment pour vendre, mais pas pour acheter, en somme. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais demain, qui sait? C'est un marché extrêmement volatile. C'était « Une petite mine d'or dans votre entrée de garage », un texte d'Alain Mekena, paru le 30 juin 2025 dans la presse.
Et si on appelait les insectes plastivores à la rescousse? Un texte de Chloé Rosa Tegero, Fanny Renoir et Marie-Odile Benoît Biancamano, paru le 18 août 2025 dans Le Devoir. La place qu'occupe le plastique dans notre quotidien s'explique par ses nombreuses qualités, en particulier sa polyvalence et sa durabilité, et il a largement contribué à façonner la société moderne. Dans le contexte actuel, un rejet total de ce matériau ne serait ni réaliste ni souhaitable compte tenu de ses multiples applications, notamment dans le secteur médical et en ingénierie. Cet article n'a donc pas pour but de vous culpabiliser ni de faire de vous un militant environnemental, mais simplement de vous inviter à une prise de conscience. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le plastique, aujourd'hui au cœur de multiples enjeux écologiques, trouve son origine dans une volonté initialement noble, préserver la nature. En effet, à la fin du 19e siècle, les éléphants d'Afrique sont menacés par la surexploitation de leur défense en ivoire. Face à cette crise, une entreprise du Connecticut aux États-Unis lance un concours visant à trouver un substitut à ce matériau naturel. C'est ainsi qu'a été développé le tout premier plastique, le celluloïde, fabriqué à partir de cellulose et de camphre, marquant le début de l'ère des polymères synthétiques. Dès lors, et particulièrement depuis la période d'industrialisation d'après-guerre, les débris plastiques s'accumulent à un rythme effréné dans l'environnement. Vous savez sans doute déjà qu'il faut des décennies pour qu'un déchet plastique disparaisse. C'est justement là que réside un problème bien plus insidieux. Au fil du temps, ce matériau se fragmente en microplastiques, des particules qui ne peuvent être vues qu'au microscope. Aujourd'hui, les microplastiques sont omniprésents dans les écosystèmes. Emportés par le vent, les eaux de ruissellement ou les systèmes d'égouts, ils se retrouvent dans les rivières, les océans, les sols agricoles et forestiers, et même dans les zones les plus reculées de la planète. Dans l'environnement aquatique, ils flottent dans la colonne d'eau, se déposent sur les fonds marins ou se fixent aux algues, devenant accessibles à une vaste gamme d'organismes, du zooplancton aux poissons prédateurs. Une fois ingérées, ces particules peuvent obstruer le tube digestif, créer une sensation de satiété trompeuse ou provoquer une panoplie de lésions internes affaiblissant l'animal, parfois jusqu'à sa mort. Sur Terre, elles contaminent les sols, altèrent la structure des habitats et bouleversent le fonctionnement des écosystèmes. Par exemple, les vers de terre, en creusant, ingèrent involontairement ces particules, ce qui peut perturber leur croissance et leur reproduction. Chez les animaux plus complexes, comme les mammifères terrestres, des microplastiques ont été retrouvés dans des tissus variés, du foie au cerveau, soulevant des inquiétudes quant à leur potentiel à franchir les barrières biologiques. À chaque maillon de la chaîne alimentaire, ces particules s'accumulent, circulent, interagissent avec d'autres polluants et s'infiltrent lentement mais sûrement dans la trame même du vivant. Invisibles à l'œil nu, elles agissent en silence, bouleversant les équilibres écologiques les plus fondamentaux. Ces dernières années, face à ces constats, les scientifiques ont redoublé d'efforts pour trouver des solutions visant à limiter la dispersion des microplastiques dans l'environnement. Récemment, plusieurs équipes de recherche ont mis en évidence la capacité de certaines espèces d'insectes, notamment le Ténébrion meunier, Ténébrio molitor, à ingérer volontairement du plastique. Déjà utilisé pour valoriser des résidus végétaux compostables en les transformant en sources de protéines, le ténébrion meunier suscite un intérêt croissant pour sa capacité à dégrader certains plastiques grâce à son comportement plastivore. L'idée serait donc de tirer un double bénéfice de cet insecte, d'une part en réduisant une partie des déchets plastiques et d'autre part en le valorisant comme source alimentaire durable. En effet, son élevage demande peu d'eau et peu d'espace, génère peu de méthane, présente un excellent rendement de conversion alimentaire et sa fraction comestible dépasse largement celle des animaux d'élevage classiques. Ce concept novateur, appelé entomoremédiation, est d'ailleurs de plus en plus mis de l'avant comme une solution naturelle et verte. Toutefois, malgré l'engouement qu'il suscite, de nombreuses questions demeurent quant aux effets à long terme de l'ingestion de plastique sur la santé de ces insectes. Comme tous les animaux, les insectes peuvent être malades. Pourtant, leur santé reste encore peu étudiée et seuls quelques rares vétérinaires offrent des consultations aux éleveurs d'insectes comestibles. Il est raisonnable de penser qu'une exposition prolongée aux microplastiques pourrait provoquer chez ces insectes des altérations pathologiques similaires à celles observées chez d'autres animaux, affectant ainsi leur santé globale et leurs fonctions biologiques. De plus, certains élevages de ténébrions sont destinés à la production de farine pour l'alimentation animale ou humaine, rendant indispensable l'évaluation de l'impact de l'ingestion de microplastiques sur leur qualité nutritionnelle et les risques sanitaires potentiels. Étudier ces effets permet également de mieux comprendre le déplacement des microplastiques à travers les chaînes alimentaires, avec un risque de contamination d'autres espèces. Une évaluation rigoureuse est donc nécessaire avant d'implanter une stratégie reposant sur l'utilisation d'organismes vivants à des fins de dépollution. L'histoire même de l'invention du plastique rappelle que des intentions initialement louables peuvent, avec le temps, engendrer des impacts environnementaux significatifs. Cette prise de conscience souligne l'importance d'une démarche scientifique prudente afin d'éviter que des solutions innovantes ne deviennent elles-mêmes source de nouveaux problèmes. C'était « Et si on appelait les insectes plastivores à la rescousse? » Un texte de Chloé Rosa Tegero, Fanny Renoy et Marie-Odile Benoît Biancamano, paru le 18 août 2025 dans Le Devoir.